Bonjour, chers amis auditeurs. Alors, pour l'émission Avoir Château dans le Lot, aujourd'hui, nous sommes au château de Lantis avec Françoise Barbier d'Amiette, qui est la propriétaire de ce château. Mais alors, chers amis auditeurs, je crois que vous allez être comme Marie-Madeleine et moi-même, absolument subjugués de découvrir ce château. Donc, Françoise Barbier d'Amiette, bonjour.
Bonjour, ravie de vous avoir, chers auditeurs.
Et bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour Madame et bonjour à tous.
Voilà, comment allez-vous,
Très bien, très
Marie-Madeleine?
bien.
En
Je suis
forme?
ravie d'être ici.
C'est parfait, oui. Ravie d'être ici, j'en profite de continuer sur votre phrase, Marie-Madeleine, parce que nous sommes et nous avons été bouche bée devant la découverte de ce magnifique château dans le Lot. Alors, Françoise Barbier d'Amiette, racontez-nous un petit peu cet historique de ce château. Si j'ai bien compris avant l'émission, vous avez découvert quelque chose. Alors racontez-nous comment vous êtes arrivé dans le Lot et comment vous êtes arrivé ici au château de Lantis.
Bonjour, donc l'histoire commence en 1993. Nous sommes une famille nombreuse, quatre enfants, de la région lilloise, et nous cherchons à passer des vacances tranquilles en camping dans le sud de la France. Alors nous découvrons un terrain à vendre dans le Lot, près de Gourdon, à Dégagnac. Un terrain qui se compose d'une petite forêt, d'un pré à l'arrière, et on décide donc d'acheter ce terrain qui correspondait à nos financements, dans l'idée de camper, évidemment. Alors, les premières années, eh bien, on vient installer notre tente sur la partie prairie. Et on commence à nettoyer un petit peu le petit bois, puisque c'était une petite butte arborée. Et puis, tout se passe bien, on fait comme tous les touristes, on visite, on va nager dans les rivières, et puis on repart chez nous. Quelques années plus tard, dans les années 1996, nous décidons de nettoyer la partie supérieure de la petite colline afin de construire ce qui aurait été une petite maison à côté du pigeonnier, parce que de cette forêt émergeait le haut d'un pigeonnier, cadastré pigeonnier, qui était en fait le haut d'une tour. Alors on va commencer à couper des arbres, à désherber, et puis on va avoir la surprise de trouver énormément de pierres. Alors dans la région lilloise, évidemment, on n'avait pas des pierres dans la terre, donc on est un petit peu surpris, on va voir nos voisins qui nous disent: oui, mais dans le Lot, de toute façon, il y a plein de cailloux, donc vous n'avez qu'à les poser au bord de la route, un peu comme des Legos, en quinconce, 2 plus 1 au-dessus, bon voilà, on devient apprenti. Tailleur de pierre, et on monte les
En
murs,
amateur de l'art
en
pour le coup,
amateur,
hein.
bien sûr. Et puis, plus on va continuer nos travaux de déblaiement autour de la forêt, et plus on va trouver, évidemment, de cailloux, puis un conduit de cheminée. Dans une forêt, ça paraît curieux. Puis, on descend le long du conduit de cheminée, on va trouver une cheminée en pierre. Alors on était tout contents, on s'est dit: mais une cheminée en pierre dans notre maison, hein, ça va être génial. Puis on trouve des murs, et puis on va trouver un dallage en mauvais état, mais un dallage tout à fait particulier, qui a été restauré ensuite. C'est un dallage en escarboucle. Puis on va trouver ce qui semble être une porte qui est murée. On va démurer, et on va arriver dans une pièce qui s'avérera être la chapelle. Puis on va démurer une autre porte, on va découvrir en grattant, bien sûr, hein, puisque ce sont des tonnes de terre, de cailloux que l'on extrait, on va découvrir un escalier, des marches qui amènent à d'autres salles, avec des voûtes, avec d'autres cheminées, avec d'autres escaliers. Et en 2000, on a découvert la carcasse du château. Un squelette, un bâtiment prêt à s'écrouler. Et à ce moment-là, on va se demander ce que l'on fait de ça, puisque ça ne correspondait pas du tout à notre projet familial.
C'est sûr, une maison, une petite maison.
On voulait une petite maison tranquille pour passer des vacances tout à fait agréables. Et on se découvre avec un bâtiment qui... On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Est-ce que c'est une église enterrée? Est-ce que c'est un prieuré? Est-ce que c'est un monastère? On avait vu dans des archives à Cahors qu'avait existé un prieuré à Lentis. Donc, on imaginait que c'était le prieuré, sauf qu'il y avait trop de cheminées. Et on va découvrir des bouches à feu, des canonnières. Donc, c'est pas un prieuré. Et en 2000, par le hasard de la vie, on va avoir la possibilité d'un héritage et qui correspond exactement au financement de la restauration de la toiture de ce bâtiment.
D'accord. Et donc, alors... Vous, en 2000, donc vous obtenez ce financement. Mais alors, quel est l'historique de ce que vous avez découvert, donc ce château de Lentis, par rapport à la Révolution, de quelle époque il date, etc.
Alors, à la suite de cette découverte, on va s'intéresser au plus près aux archives. Donc on va aller aux archives à Cahors, à Périgueux, à la Bibliothèque nationale à Paris, et avec l'aide d'amis historiens, archéologues, professeurs d'histoire, on va découvrir l'histoire de ce bâtiment. Une histoire absolument fabuleuse qui démarre au XVe siècle. En 1420, existe à Décagnac un très gros château militaire, quatre côtés, un peu comme le château d'Assier près de Figeac.
D'accord.
Donc un château militaire qui appartient à une très grande famille, les Durfort de Boissières. Ce château n'est pas tout seul, puisque dans Dégagnac, dans la vallée, juste en face de ce château de Lentis, existe un autre énorme château, le château de Vertillac, qui lui sera démoli en 1830. En face de Vertillac, pour défendre la vallée, il y a le château de Saint-Avit, qui perdra ses tours à la Révolution française. Et en face de Saint-Avit, le château de la Serre, qui sera transformé à la Révolution française en ferme. Alors ces quatre châteaux sont disposés de chaque côté de la vallée, sachant que Lentis et ses autres châteaux forment la défense du territoire français qui est juste à côté du territoire anglais, puisque Sarlat et Dôme sont anglais, sont passés aux mains des Anglais. Et les troupes anglaises, pour passer en France, doivent évidemment cheminer dans cette vallée et seront pris en tenaille entre ces quatre châteaux défensifs. Ce qui empêche la remontée des troupes anglaises vers le nord, vers Gourdon, et vers le sud, par Cahors.
Donc place stratégique, visiblement.
C'est tout à fait stratégique, et ces quatre châteaux sont situés chacun sur une motte castrale.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est une motte castrale ?
Alors, une motte castrale, c'est quelque chose de proéminent, une petite colline qui va être surélevée par des terres que les paysans amènent au moment du Moyen-Âge. On crée des mottes castrales de façon à avoir des points stratégiques avec une orientation à 360 degrés. Ces terres, ces mottes vont continuer à s'agrandir puisqu'il existait un impôt, un ban, où chaque feu, chaque famille devait amener chaque année une charretée de bonne terre, de fumier sur la motte, ce qui rendait évidemment la motte très fertile et évidemment ça appauvrissait les paysans qui habitaient autour. Cet impôt a continué jusqu'à la Révolution française. Donc les terres alentissent et autour, à Vertillac, à Saint-Avit et au château de la Serre sont très fertiles.
Oui, ce sont des bonnes terres.
Ce sont des très bonnes terres.
Voilà. Et donc, merci pour cette explication parce que c'est très important. On n'est pas forcément censé savoir ce qu'est une motte castrale. Et donc vous nous parliez donc de cet emplacement stratégique parce qu'effectivement, en arrivant, je disais à Marie-Madeleine qu'il y avait effectivement une vue assez importante de votre château, enfin du portail d'entrée de votre château. Voilà.
Alors, le château, en 1420, on le redécouvre sous le château de Lantis actuel. Donc, c'était sous le château de Lantis actuel, un côté, de chaque côté des ailes, et le devant du château, de même qu'au château d'Acier, c'est une façade certainement très architecturée, et qui se trouve maintenant sous la route. Puisque d'après les anciens, cette route construite dans les années 1960-1950 a été construite sur des gravats, sur des pierres qui restaient dans les champs. Ce château est détruit pendant la guerre de Cent Ans et c'est terminé, on n'en parle plus.
D'accord.
Alors, certainement que les belles maisons autour à Dégagnac sont construites avec des reliquats de ce château moyenâgeux. Pendant 200 ans, plus rien ne se passe. Et en 1610, la reine Marie de Médicis va ordonner la construction d'un nouveau château sur cette terre noble, sur cette motte castrale, château de Lantis, construit à partir de 1610, pour la défense des catholiques contre les protestants qui se trouvent de l'autre côté de la forêt de la Bessède sur le Bourdonnais. Donc, château militaire, à nouveau. Le château est construit sur les bases de l'ancien château du XVe et le château, en 1610, se compose d'un corps de logis rectangulaire et de tours excentrées. Pourquoi excentrées? Elles vont permettre la défense sur les quatre orientations par des bouches à feu de différents calibres, ce qui permet un tir croisé. C'était déjà très astucieux à l'époque. Le château, au XVIIe siècle, est entouré de fossés, dont des douves sèches, profondes de 4 mètres, qui permet d'isoler un peu plus le château des ennemis.
Il n'était pas bête à l'époque.
Pas du tout. Et fin stratège.
Tout à fait.
Fin stratège. Alors, ce n'est pas un château isolé comme cela. C'est un château avec beaucoup de terres. Et tous ces châteaux appartiennent au comte Clermont de Toucheboeuf.
D'accord.
Joli nom.
Un nom ancien, Toucheboeuf.
Oui.
Clermont de Toucheboeuf, c'est un très grand personnage et on peut faire le parallélisme avec Fouquet et Vaux-le-Vicomte.
À ce point-là, oui, effectivement.
Parce que Clermont de Toucheboeuf n'a pas un château, mais une quinzaine de châteaux, dans l'alignement du château de Lantis.
D'accord.
Pour défendre les troupes et les catholiques contre les protestants qui sont de l'autre côté de la forêt. Donc tous ces châteaux, puissamment armés, appartiennent à ce Clermont de Toucheboeuf. Personnage puissant, puisqu'il est sénéchal du Quercy.
D'accord.
Gouverneur.
Absolument.
Il est chambellan des enfants du roi. Il instruit les enfants royaux. Et surtout, ce qui fait sa force, et qui fera évidemment, qui provoquera sa perte, c'est qu'il est propriétaire de mines de fer. Vous avez vu que les terres sont rouges, elles sont ferrugineuses. Il y avait énormément de mines de fer autour de Gourdon et jusque dans l'Aveyron. Que fait-on avec son fer?
Des armes.
Des armes, des fusils, des canons, des munitions. Clermont est le marchand d'armes officiel de Louis XIII.
D'accord.
Vous comprenez bien le projet
tout à fait.
Et les difficultés qui vont arriver.
Oui,
que Louis XIII, là-haut, avec sa cour, se voit en face de lui, ce grand seigneur, proche de la cour en plus, avec tous ses châteaux.
En rival.
En rival, avec ses troupes militaires, ses soldats bien aguerris, armés jusqu'aux dents, une menace.
Oui.
Une menace.
Et oui.
Et en plus, on ne sait pas, on n'a pas trouvé encore, mais est-ce que Clermont n'a pas vendu à l'ennemi? Qu'a-t-il fait pour tomber en disgrâce?
C'est le Fouquet de Louis XIII.
C'est le Fouquet de Louis XIII. Alors, il n'aura pas un destin aussi tragique que Fouquet, il ne finira pas sa vie en prison. Clermont de Touchebœuf va être envoyé sur ses terres privé de privilèges.
D'accord.
Privé de privilèges, c'est-à-dire qu'il ne peut plus lever l'impôt, ni les droits de péage, il n'a plus le droit de rien, il n'a pas le droit de travailler, sinon il déroge. Donc c'est une famille, à partir de 1650, qui va vendre les terres, les bois, les moulins, les métairies, les châteaux. En fait, tout ce qui était rente.
Et oui.
Et donc, ils vont s'appauvrir. Pour marier les filles, il faut donner une dot.
D'accord.
Au fur et à mesure, tout va être vendu. Et les derniers Clermont, au moment de, à l'approche de la Révolution française, vont habiter le château de Lantis.
D'accord.
Donc, ils se réfugient au château de Lantis, château qui n'a pas eu de restauration depuis 200 ans. Vous imaginez l'état du toit, des fenêtres. Il n'y a plus de meubles, on brûle les meubles pour avoir un peu de chaleur. Ils n'ont plus rien, ils ne possèdent plus que cette petite colline autour. Ils ont été spoliés évidemment de tout. Alors la disgrâce, c'est le renvoi sur les terres, mais cet état se prolonge avec tous les descendants, jusqu'à ce que le nom s'éteigne. Donc c'est au fur et à mesure une famille qui va tomber dans la plus grande précarité. Donc ils vivent comme des paysans, ils n'ont plus rien à manger. En plus, vous savez qu'au XVIIIe siècle, on a la petite ère glaciaire, donc un froid intense, le vin gèle sur les tables, les gabarres avec les tonneaux de vin ou avec le transport du bois sont gelés dans les rivières. Et évidemment, la pauvreté, la crise sociale, la crise alimentaire, la crise économique va s'accentuer et les Clermont de Touchebœuf vont pâtir de cette situation. Alors, on arrive comme ça, tout doucement, en 1785.
Pas loin de la Révolution.
Juste avant la Révolution française. Et là, ce dernier Clermont, peut-être par esprit de revanche, ou parce que vraiment il n'a plus. Il vend quelques terres, encore deux terres sur la petite colline qui lui reste, et il achète la charge d'avocat syndic. Vous savez qu'on a, on a acheté son diplôme.
Oui.
Il
oui,
achète
oui.
la charge d'avocat syndic. Qu'est-ce que c'est qu'un avocat syndic?
Très bonne question.
Voilà. Vous entendez le mot syndical?
Oui, tout à fait.
C'est l'avocat qui défend le peuple contre le roi.
Oula.
Charge qui existait depuis Louis XV et qui sera supprimée à la Révolution française par les révolutionnaires. Donc, Clermont va défendre la population de Dégagnac et des environs contre des impôts peut-être abusifs. Il va réussir à faire baisser l'impôt dans le Quercy.
Prouesse.
Prouesse que tout le monde voudrait bien voir se renouveler, n'est-ce pas?
Oui, on s'en doute.
Voilà, donc toute la population l'applaudit. Il est très aimé. C'est le seigneur qui fait baisser l'impôt, qui permet à ces populations très pauvres de pouvoir encore manger.
Oui, parce que en fait, c'est parce que aussi lui-même, quelque part, a pâti d'une situation difficile, donc il se fait l'avocat, justement, du peuple.
Voilà, il se fait l'avocat du peuple. Alors, est-ce qu'il a déjà senti qu'il y aurait un mouvement de contestation, une révolte de croquants, comme on disait à l'époque. On ne parle pas du tout de révolution.
Non, non, non.
Alors, tout le monde l'aime. Et vous savez que dans l'élite, on devait savoir que la révolution était en marche. Enfin, la révolte était en marche, bien sûr. Et avec les guerres d'Amérique, la France était ruinée, totalement ruinée.
Ça couvait depuis longtemps.
Ça couvait depuis déjà une décennie.
Ou même bien plus. Parce que déjà sous Louis XIV, je pense...
Oui, il y avait déjà des révoltes de croquants. Oui. Donc, en 1787, donc 2 ans plus tard, voilà toute notre famille Clermont de Touchebœuf qui embarque à La Rochelle pour les Amériques. Et ils sont tellement en pénurie qu'ils laissent leur mal. Ils n'ont même pas de quoi embarquer leur mal. Ils embarquent eux physiquement.
Point. D'accord. Effectivement.
Ils partent aux Amériques et ne reviendront jamais. L'affaire est close.
Mm-hmm. Le château. Du château.
Oui, voilà, c'est ce que j'avais... Merci Marie-Madeleine. Queen du château.
Queen du château. Alors, que devient-il ? Eh bien, comme tous les biens des émigrés, il est vendu en 1790 comme bien national. Donc, un bâtiment certainement déjà très ruiné, mm-hmm. en très mauvais état. Mm-hmm. Alors, c'est un paysan du village, nommé Tessandier, qui va acheter la motte et la ruine du château.
D'accord. Bon.
Que va-t-il en faire ? Rien. Il va évidemment éviter soigneusement d'y habiter, de manière à ne pas être décapité. Et il va se faire construire, juste à côté du château, un bâtiment, 18e siècle, 1793, appelé manoir, mmh. manoir de Trémolède. Il va habiter là. Et cet homme, qui n'était peut-être pas le paysan inculte et illettré que l'on pense, il était peut-être le régisseur ou il était peut-être l'homme de paille du château, mmh. va garder précieusement dans le grenier de ce manoir tous les documents notariés, les archives et les livres du château.
Donc manoir dont vous êtes également propriétaire avec le terrain.
Voilà, mes enfants ont acheté ce bâtiment il y a quelques années, de façon tout à fait incongrue. Nous envisagions de pouvoir permettre aux voitures de se garer dans un pré, mmh. et le propriétaire de ce pré nous a dit oui, c'est d'accord, mais il y a tous les prés autour, et la maison, cette vieille maison en très mauvais état, que vous devez acheter en même temps. Et c'est ce hasard, ce cadeau du ciel qui fait que nous sommes en possession de toute l'histoire depuis 1420 jusqu'à 1914.
Oui, parce que vous avez retrouvé ces archives dans ce manoir.
Nous avons retrouvé toutes les archives et les livres du château. Mmh. Des livres religieux. Puisque vous savez, un château, ce n'était pas simplement un château. Il y avait des prieurés, il y avait des couvents qui dépendaient de ce château et aussi de l'évêché de Cahors et de Catus. Et on a eu la chance de retrouver des documents, des livres très anciens, des livres de 1523, la vie de Saint Chrysostome, un saint qui a vécu au 5e siècle après Jésus-Christ et dont la vie a été écrite en plusieurs volumes par les moines du prieuré de Lentis, prieuré qui a été démoli pendant les guerres de religion et tous les moines ont été tués en 1528.
Alors, nous allons arrêter là notre belle conversation pour aujourd'hui, Françoise, si vous me permettez. Et nous allons donner rendez-vous à tous nos chers auditeurs pour la semaine prochaine, parce que nous sommes en attente de la suite. Donc Françoise, merci beaucoup de nous avoir accueillis et de nous accueillir dans ce beau château.
Merci.
Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures de ce château. Marie-Madeleine, à la semaine prochaine également.
Au revoir à tous.
Et au revoir à tous.
Au revoir à tous. À très bientôt.